19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne de 19h à 20h. Et puis il fait beau, il y a une belle équipe ce soir comme tous les jours de la semaine avec Vivien qui est avec nous. Vivien, comment ça va?
Bah ça va, bonsoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, on a une très belle équipe encore une fois.
Ouais, et puis t'as les cheveux qui poussent, Vivien, ça montre que
fin d'année j'aurai les cheveux longs donc
Mouad est avec nous aussi, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, bah ça va très bien. Écoute, fin de semaine,
ouais,
il fait beau. Donc,
week-end de Pâques,
le meilleur des mondes.
T'as pas ton maillot d'Arsenal par contre ce soir?
Non, bah écoute, je me change de temps en temps, ça m'arrive de me changer. Ouais,
sans oublier Samir qui est avec nous ce soir, comment ça va Samir?
Ah, ça va super, salut à tous.
C'est tout?
Bah c'est tout, ça va.
C'est déjà pas mal. Hein.
Une suite de trêves internationales qui était très moyenne, mais bon, vous en avez déjà parlé toute la semaine.
Et puis notre invité ce soir, Yvan Ouandji, je me permets de dire star du Cécifoot français. Et oui.
Bonsoir.
Comment
à tous,
ça va,
à tous. Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
Un vrai plaisir en tout cas de vous avoir parmi nous en tout cas sur l'émission Time Sport. Au menu de cette émission, on parlera bien sûr football avec le dossier épineux de Kylian Mbappé. Restera, restera pas, les états d'âme, se sent-il bien, restera-t-il au Paris Saint-Germain en France? Et puis on parlera notamment du mercato de l'Olympique de Marseille, équipe à reconstruire alors que Jorge Sampaoli et ses hommes luttent pour la qualification à la Ligue Europa. On parlera également basket et enfin pronostic sur la rencontre de ce week-end entre le Paris Saint-Germain et Lille. Allez, on enchaîne.
Time Sport, le ras-le-bol.
Les amis, Kylian Mbappé, un dossier qui traîne et qui traîne et qui traîne en longueur. Mouad.
C'est un dossier qui traîne, bah, j'ai l'impression que c'est un peu une série Netflix, hein, épisode 7, saison 4. Non, mais plus sincèrement, je pense que seul Kylian Mbappé aujourd'hui connaît sa décision. Avant de se projeter, avant de spéculer, il faut savoir déjà ce que lui a décidé. Et bien sûr, après, que si Kylian Mbappé était amené à prolonger, ben, il va falloir libérer du cash. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse, éventuellement, il y aurait Icardi qui serait sacrifié. Donc du coup, pour moi, c'est pas la bonne option. Pour moi, il y aurait d'autres joueurs à sacrifier, puisque, a priori, faire prolonger Kylian Mbappé, bah, ce serait vendre Icardi pour recruter Moïse Kean et donc générer du cash. Moi, pour moi, ce serait pas la bonne option. Pour moi, il y a d'autres joueurs à libérer pour générer un peu de liquidité. Il y a Bakker, il y a Kerrer, il y a Areola aussi qui est en prêt. Donc voilà, donc il y a une multitude de solutions. Donc,
est-ce que tu penses que tu peux te faire un peu de liquidité avec Bakker
et Areola?
Bah écoute, tout s'accumuler, bah écoute, c'est avec les petites fortunes qu'on réalise de belles économies. Je pense qu'il y a des joueurs intéressants quand même dans ce Kerrer, ça peut être un petit billet. Draxler aussi, c'est intéressant compte tenu de son salaire.
Il est bien Draxler, hein,
donc,
il a encore révélé.
Icardi, par rapport au prix qu'il a été recruté, je pense que c'était un prêt avec option d'achat aux alentours de entre 40 et 50 millions. Je pense qu'avec tous ces petits joueurs accumulés, Idrissa Gueye et compagnie, je pense que tu peux libérer cette somme et en gros garder Icardi, puisque justement Moïse Kean, c'est un pari et c'est un peu trop tôt pour en faire le remplaçant ou l'avant-centre dédié du Paris Saint-Germain. C'est
ce que Samir.
Alors concernant Mbappé, j'ai essayé de fouiner un tout petit peu, d'essayer de récupérer quelques informations, même si comme dit Mourad, ça va être très difficile parce que seul lui et son entourage savent exactement ce qu'il va faire la saison prochaine. Mais ça, les retours que j'ai eus m'ont l'air assez cohérents avec la situation. Déjà, c'est une certitude, tant qu'il y a la Champions League, on n'entendra pas parler de prolongation ou pas. Donc tant que le Paris Saint-Germain est toujours en Ligue des Champions, il ne donnera pas de réponse. Par contre, s'il y a élimination, je pense que ça va un petit peu accélérer les choses. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, on le saura l'année prochaine. Mais si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, il y a des chances qu'il ne prolonge pas et qu'il écrira son destin ailleurs. À l'inverse, si jamais le PSG ne prend pas la Ligue des Champions, il y a des chances qu'il reste au Paris Saint-Germain pour écrire l'histoire.
Non, je suis assez d'accord. Je vois beaucoup ce scénario parce que Mbappé, il a beaucoup dit qu'il veut marquer l'histoire du club, marquer l'histoire du foot français. Donc, s'il gagne la C1, ce serait la sortie idéale. L'an dernier, Paris était proche, bon, proche et loin parce que la finale, le Bayern a été plus réaliste, plus décisif. Donc, ce serait la revanche parfaite de revenir un an après, de la regagner. Donc, Mais après, pour le reste, alors Mourad l'a comparé à une série Netflix. Moi, je le comparais à... Tu disais pour le Vatican qu'on attend la désignation du nouveau pape avec la fameuse poudre blanche.
Parfois on attend. Amusé, hein,
parfois on attend.
Netflix et toi tu rebondis derrière.
Oui, non mais la poudre blanche. Parfois on attend des semaines et on sait pas. Donc
il y a une série sur le pape avec Jude Law justement. Mais ça c'est une série Canal.
Si je peux juste ajouter quelque chose. Donc ça c'est un peu les infos que j'ai essayé d'avoir. Donc c'était voilà en fonction de Ligue des Champions ou pas. Mais mon avis à moi. Même si tu as gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, reste au Paris Saint-Germain. Il y en a qui gagnent 2, 3, 4 Ligue des Champions avec leur club de cœur, reste au Paris Saint-Germain, fait grandir le club. Neymar, on sait qu'il sera là la saison prochaine.
Après, peut-être avec mais l'autre.
Je pense qu'il y a un contexte économique aussi. Je pense que il y a des pertes financières liées au Covid pour le Paris Saint-Germain et pour l'intégralité des clubs.
Même pour le Real Madrid aussi.
Pour le Real Madrid aussi. Mais le Real Madrid aurait potentiellement moins de mal à l'attirer que d'autres clubs. Je pense que je vois mal en fait. Contexte crise Covid lié et si victoire de Ligue des Champions l'IA, le PSG maintenir ses deux stars. Pour la prolongation de Neymar, je pense que c'est bien avancé, ça a avancé plus vite que Kylian Mbappé. Après, s'il y a une victoire au bout, je pense que le Paris Saint-Germain, il y aura un rapport gagnant-gagnant, on va en profiter pour générer des liquidités et engranger du cash. Je pense qu'il y a une option business à intégrer. En tout cas, sur le cas Kylian Mbappé.
Je fais confiance à Nasser pour faire un montage financier pour garder les cadres. Je pense qu'il sait se débrouiller, Nasser, à mon avis.
Je pense aussi. C'est son métier. Je pense qu'il n'y a pas mieux que lui, en tout cas.
Toujours est-il qu'on a entendu Kylian Mbappé il y a de cela quelques jours, quelques heures.
Il est agacé.
Ah, il semble agacé. Des critiques.
Il est agacé. Non, on doit être comment alors? Moi, je n'endors plus la nuit de ça. Non, mais plus sérieusement, enfin.
Est-ce que c'est justifié pour vous?
Il est agacé par rapport au petit pic qu'on fait sur lui, sur ses prestations. Déjà, ça démarre par ça. Et en plus de ça, il y a l'histoire de la prolongation.
En fait, il est agacé. Il a le droit d'être agacé. Mais le problème, c'est que.
Il estime que le traitement des joueurs qui jouent en équipe de France, mais à l'étranger, est différent.
J'ai très bien compris la question. Parce que lui, il y a des regroupements à Clairefontaine qui se font. Peut-être qu'il y a des échanges. Il y a des discussions qui sont réalisées avec des Pogba sur le traitement médiatique des superstars en première ligue ou en Liga, etc. Mais s'il veut se projeter et éventuellement partir à l'étranger, faut savoir que la critique, ça fait partie de l'évolution d'un grand joueur. Real Madrid, il en subira autant, si ce n'est plus. Quand on connaît justement l'impact médiatique et le niveau des critiques de la presse espagnole ou éventuellement en première ligue, je veux dire, c'est du pipitia à côté, la presse.
Zidane a réagi, justement, par rapport à cette petite polémique concernant Mbappé. Et le football, ça a toujours été comme ça. Plus vous êtes fort, plus vous êtes critiqué. Cela fait partie du contexte normal, logique. Que ce soit pour Kylian ou tous les autres joueurs, ils le savent. Même s'il a eu une réaction, ils savent que ce sera toujours comme ça. Il y a toujours des critiques. Quand on sera moins bon, il y en aura des magnifiques. Quand on sera bon, cela ne changera jamais. On parle de tous les joueurs en général, mais c'est vrai qu'ici au Real, on est bien placé pour ça. Est-ce qu'il serait prêt, justement?
Zizou nous a fait du Zizou, là, dans sa déclaration. C'est enfoncer des portes ouvertes. C'est bien.
Oh, laisse notre Zizou tranquille.
C'est pas bien.
Ah, je défends pour Yacine Bouhanni ce soir.
Non, mais là, on n'apprend rien. Mais bien sûr que si Kylian Mbappé va direction le Real Madrid, il sera soumis aux critiques aussi. Et à lui, justement, de prendre de la hauteur et d'être préparé à cela.
Karim Benzema est passé par là.
Exactement. Même Sergio Ramos qui est aussi.
Mais tous les grands joueurs sont critiqués à un moment ou un autre dans sa carrière, dans leur carrière.
Quand on aime bien, on châtie bien, j'ai envie de dire. Je pense qu'en France, on le critique beaucoup, mais malgré tout, on apprécie son destin, son parcours exceptionnel. Donc.
Non, mais qui aime bien, châtie bien, ça c'est dans le monde des bisounours. Là, on est dans le foot business. Là, si Kylian Mbappé signe éventuellement au Real Madrid, Karim Benzema a pu arriver au Real Madrid à l'époque où il était placé en remplaçant de Ronaldo, El Fenomeno, le Brésilien, et qu'il avait du mal justement à monter en compétences, etc., il avait été soumis légitimement à des critiques. Et
qu'il arrive
dans ce cas de figure-là, la foudre des critiques.
Et c'est à lui de
répondre sur le terrain.
Et quand on critique, c'est parce qu'on attend énormément de toi. C'est qu'il y a le joueur, on le connaît, il a un énorme potentiel. Donc on veut
c'est
plus,
y a des attentes.
C'est normal, Samir.
Déjà, tu viens de le dire, les critiques, c'est à la hauteur des attentes. Ça, c'est une certitude. Ensuite, j'ai pas envie de faire de polémique inutile, mais des fois, il y a quand même le deux poids deux mesures. Il y a des joueurs aussi qui font partie du championnat de France. Effectivement, tu vas pas attendre d'eux de ce que tu vas attendre de Kylian Mbappé, mais tu vois que c'est des joueurs que tu calcules un peu moins. Kimpembe prend moins de critiques que Mbappé, parce que Mbappé c'est un joueur offensif, un joueur défensif pourtant. Voilà, des petites bavures, il en a fait, Kimpembe. Bon, voilà, on l'a pas trop critiqué. Mbappé, on va toujours le chercher. Pourquoi? Parce que peut-être il a tendance à hériter. Il est jeune, il est intelligent, il a une bonne communication, il est fort. Alors dans ces cas-là, on va aller un petit peu le chercher.
Yvan, votre réaction sur la situation de Mbappé?
Non, mais écoutez, moi je trouve que c'est bien de tenir compte du contexte économique, de l'intérêt du Paris Saint-Germain à l'idée de conserver ses meilleurs joueurs, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'intéresse au choix de Mbappé. Peut-être que lui aussi, il sent qu'il a l'impression d'avoir fait le tour dans le championnat de France. Voilà, il a dépassé plein de records, il a fait plein de belles choses, et peut-être que il veut se tester dans d'autres championnats, avec plus de niveau, avec plus d'adversité, avec plus de rivaux. Pourquoi pas aller en Espagne, comme vous le disiez précédemment. Moi, je pense qu'on voit trop l'intérêt du Paris Saint-Germain et on se soucie pas assez de l'intérêt du joueur.
Du joueur, de l'humain,
bien sûr.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais pour moi, c'est un jeune joueur et il a le temps de le faire. Donc, je suis entièrement d'accord avec ton raisonnement, mais c'est juste qu'il préfère un peu plus tard.
Il a le temps, ça fait 5 ans qu'il est en France.
Et c'est lui qui dit qu'on parle pas d'âge, etc.
Il a peut-être fait le tour. Hein.
La faute d'avoir percé à 17 ans.
Mais ça fait 5 saisons qu'il évolue en France, donc peut-être qu'il est aussi à son niveau, il a peut-être envie de voir autre chose.
Absolument.
Il y a un critère à prendre en compte, c'est aujourd'hui l'espérance de vie d'un joueur, elle est plus de 9-10 ans, comme on pouvait le voir à l'époque. Dans les années 90 ou au début des années 2000, aujourd'hui les joueurs ils sont formés et ils sont équipés justement pour performer. Donc, je pense notamment à Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sur 10-15 ans. Et aujourd'hui, sur l'échelle d'espérance de vie d'un joueur, 3 ans au Paris Saint-Germain, c'est rien du tout. Donc pour moi, justement, qu'il procède étape par étape, qu'il soit justement au royaume des aveugles, le bornier roi. Donc déjà, qu'il soit le roi incontesté en Ligue 1. En enchaînant, pourquoi pas, les trophées de Pichichi ou les performances en Ligue des Champions. Et ensuite, visons sur un costume un peu plus grand, notamment avec le Real Madrid. Ça peut être aussi un autre club de Première Ligue. Ça peut être le FC Barcelone ou peu importe. Mais là, pour l'instant, il avance étape par étape et on sent qu'il est bien conseillé. Parce que s'il était justement maître de ses déclarations, maître de ses décisions, ça pourrait, connaissant un peu le personnage par rapport aux déclarations qu'on peut lire dans la presse, ça pourrait être dangereux pour lui.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose, je m'excuse, hein. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas encore justement fait de retour concernant sa prolongation. Ça lui permet à lui, en fait, de savoir, admettons que voilà, il a des envies d'ailleurs et il gagne, il part sur sa ligne de conduite. À l'inverse, si tu prolonges et que finalement tu as envie de faire autre chose, t'es mal barré en fait. T'es reparti peut-être pour une pige pour un contrat de 2 ou 3 ans et là ça va être compliqué pour le mental du joueur.
Et on parle aussi de 30 millions d'euros par an de salaire. Donc, contexte économique, ce qui est énorme. Je sais même pas
ça
si.
Ça vous fait mal à la tête, ça. Hein.
Mais en fait, ouais, c'est important de. Même si on échange en tant que fan, en tant que spectateur, mais il y a cette notion aussi business qui est importante. 30 millions d'euros pour Mbappé, 30 millions d'euros par an pour Neymar, ça fait un peu beaucoup quand même. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt en Ligue 1.
500 millions pour Messi, ça faisait beaucoup aussi. Hein.
Ouais, mais pour l'instant, il n'y a personne qui les a mis sur la table. On est sur de la spéculation.
Il y a un petit peu de marge.
Alors que Mbappé, ouais, exactement. Alors que Mbappé, là, il a quasiment le stylo sur le contrat. Il a simplement à dire oui et à le dire aux médias.
Ouais, bah. Yvan, pour vous, le Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain pour progresser, pour franchir un cap, pour devenir véritablement l'un des meilleurs joueurs du monde?
Ah oui, absolument. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, il a tout fait en France. Très sincèrement, quand il y a des matchs du championnat de France, on n'en attend plus rien de lui. On sait qu'il va marquer ou il va faire des passes décisives. Le PSG est tellement au-dessus des autres équipes globalement qu'on n'en attend plus rien des stars. On les attend réellement en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il a tout intérêt à aller en Angleterre ou en Espagne où il y a des grosses équipes, un championnat homogène. Là, en France, c'est trop hétérogène, sauf cette année où il y a un peu plus de concurrence. Mais ça reste quand même, je pense, pour Mbappé, du temps de perdu, peut-être.
La bonne question, c'est de se dire, voilà, j'ai tel âge, j'ai telle marge de progression à avoir, je suis dans mon club de cœur, dans le club de ma ville. Aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné la Ligue des Champions. Si je quitte le Paris Saint-Germain, j'ai quoi comme option? On est d'accord, vous avez cité le contexte économique. Je peux que quasiment signer au Real Madrid. Déjà, encore faut-il que le Real Madrid puisse te récupérer, mais tout comme Nasser, je pense que pour la future élection du président du Real Madrid, ce sera pas compliqué de le ramener comme il avait ramené Figo à l'époque. Mais en fait, tu as que deux choix. C'est soit tu vas au Real Madrid, soit tu restes au Paris Saint-Germain.
L'Angleterre, non? L'Angleterre, City,
non,
Liverpool.
Je sais que il y a les représentants d'Haaland, ils sont en train d'aller rencontrer tous les clubs, là, à City, à United, à Liverpool.
Justement en Barcelone,
c'est incroyable parce qu'on parle football, on parle foot business aussi. Je parlais du foot business qui était c'est un critère très important, mais il y a aussi, on oublie l'aspect sportif. Moi, Kylian Mbappé, d'un point de vue de ses qualités sportives, c'est en première ligue que je le vois, et notamment à Liverpool.
Je suis d'accord avec toi, je suis étonné qu'on n'en parle pas.
Donc on parle du Real Madrid, mais penchons-nous un peu sur le côté sportif. Et je pense que Liverpool pourrait avoir les fonds pour le recruter. Je pense notamment aussi à un Manchester City ou à un Manchester United.
Mais est-ce qu'il a attiré par ça ?
Aussi l'accueillir. Mais après, j'ai l'impression que, que Mbappé, pour devenir une superstar ou la superstar internationale, j'ai l'impression que ça passe par le Real Madrid ou le Barça. Donc moi, c'est ce qui me dérange un peu. Il y a un bouleversement des hiérarchies au niveau des joueurs, mais pas au niveau des clubs. C'est toujours... là, aujourd'hui, le Real Madrid, d'un point de vue footballistique, aujourd'hui, c'est assez limité. C'est pas le Real Madrid d'antan.
Oui, mais ils sont quand même en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont pas loin. Ça reste le club numéro 1 au monde.
Est-ce que ça te fait rêver ? Est-ce que c'est le Real Madrid des Galactiques qui gagne quasiment rien si c'est la Ligue des Champions ?
C'est juste qu'on va parler du sportif, comme tu l'as dit. C'est juste que quand tu quittes le Paris Saint-Germain, sportivement, qui est au-dessus du Paris Saint-Germain aujourd'hui ? Aller à Manchester United, tu es d'accord avec moi que c'est une régression.
C'est une régression sportive. Mais Manchester City, ça peut être une progression.
Si je peux me permettre, vous avez oublié un aspect. Mourad, vous avez oublié un aspect. C'est que quand tu vas. Que tu partes au Real Madrid, à Liverpool ou ailleurs, c'est quand même des villes, des pays qui vivent véritablement pour le football, pour le sport. Il y a peut-être cet aspect-là qui est important, non ?
Tu peux mettre Portsmouth, tu peux mettre tout le monde, Reading dans ces cas-là.
Oui, mais, c'est important, c'est-à-dire quand on est joueur de football.
C'est vrai que Paris, on a du retard. Vu ce que Leonardo a dit il y a quelques mois, que Marseille, c'est la ville du foot en France. Oui, honnêtement, Paris, on a moins de ferveur qu'à Madrid.
Je suis pas d'accord. Je pense que tu peux pas, c'est le pays qui a moins de ferveur. Si on regarde.
Non, moi j'ai parlé de la ville de Paris.
C'est un pays plus petit où il y a des derbies. Les clubs sont de l'autre côté de la rue. Je pense à Liverpool, Everton. Ici, les derbies, on essaye de nous soumettre la culture du derby, mais les clubs sont situés à 70 km les uns des autres. Donc il n'y a pas véritablement cette ferveur qu'il peut y avoir en Liga ou en Première Ligue, mais il y a la culture du gagnant. Donc, c'est-à-dire, il y a des étapes. C'est à un moment donné, c'était Saint-Etienne, ensuite l'Olympique de Marseille, Monaco, après on a eu l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Et aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, il est seul au monde, Kylian Mbappé. Donc, peut-être un peu de ferveur, certes, mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il recherche.
Merci, Mourad, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
On embrasse Bilal Nenman qui n'est pas avec nous ce soir. On est de retour sur la dernière émission de semaine de Time Sport sur Beurre FM, 19h-20h, votre émission quotidienne avec mes invités et consultants, surtout pour commencer, Samir,
toujours
Vivien,
là.
Mourad et notre invité Yvan Ouandji qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est parti.
Time Sport.
Yvan, rebonsoir.
Rebonsoir Claude.
Comment allez-vous dans cette, malgré la période particulière que l'on vit ?
Écoutez, ça va, on continue toujours à maintenir les entraînements, même si on a moins de créneaux. Mais globalement, au niveau Cécifoot en France, les entraînements sont maintenus pour les clubs, et notamment à Saint-Mandé, club dans lequel j'évolue, et on continue, parce qu'il y a plein d'objectifs et il y a plein de projets à mettre en place.
Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est que le Cécifoot pour nos auditeurs de Beurre FM ?
Absolument, et ça me tient à cœur vraiment d'en parler, parce que c'est donner aussi de l'espoir à toute une communauté, notamment aux personnes mal et non-voyantes qui nous écoutent, aussi bien en Europe qu'en Afrique et un peu partout dans le monde, et expliquer au grand public que même quand on a un handicap, c'est pas un frein. Il faut aller de l'avant, il faut pas baisser les bras, peu importe les obstacles qui se dressent face à nous. Alors le Cécifoot, Céci comme cécité, c'est du foot pour les personnes mal et non-voyantes. C'est du foot à 5, c'est très proche du foot en salle. Seul le gardien de but est voyant. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux. Parce que parmi, il y en a qui voient un peu et il y en a qui ne voient pas du tout. Donc tous le bandeau sur les yeux, sauf le gardien, 5e joueur qui est voyant. Et derrière la cage adverse, il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il parle, derrière le but adverse, les joueurs entendent où est la cage. Et comme particularité, le ballon, au Cécifoot, le ballon fait du bruit. C'est comme ça que les joueurs l'entendent.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce ballon ?
Il y a donc c'est un ballon qui est plus petit qu'un ballon de foot classique.
D'accord.
Et ça, donc il y a des gros lots dedans. Et c'est comme ça que les joueurs l'entendent. Alors il faut savoir qu'en France, on a un championnat qui est composé de 10 clubs. Il y a une Coupe de France, il y a une équipe de France de Cécifoot. Il y a une Coupe d'Europe avec les pays. Il y a une Coupe du Monde et c'est un sport qui est aux Jeux Paralympiques. Depuis 2004, et donc l'équipe de France a notamment gagné la médaille d'argent lors des Jeux Paralympiques à Londres en 2012. dans la foulée a été décoré par le président Hollande et l'équipe de France prépare les Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu normalement cet été et prépare également les Jeux paralympiques de Paris 2024.
Mmh. Après, Vivien, question.
Alors pour commencer aux auditeurs, est-ce que tu peux parler de ton meilleur souvenir en club et ton meilleur souvenir en équipe de France pour le moment?
Alors donc je vais juste expliquer un peu mon arrivée dans le CC Foot. Moi j'ai 27 ans, lorsque je suis né je voyais, j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans suite à un décollement de la rétine, donc voilà, c'est l'effet de la vie. Donc j'ai découvert le handicap, visuel, j'ai appris à lire en braille, j'ai appris à me déplacer avec une canne, j'ai appris vraiment toutes les choses accessibles pour une personne mal ou non-voyante. Donc j'ai vraiment appris à être autonome et j'ai découvert l'adaptation du foot pour les mal et les non-voyants, sachant qu'en France, donc comme j'ai dit, il y a 10 clubs et il y a un âge minimum pour démarrer, c'est 15 ans. Parce qu'à la différence des clubs valides, au CC Foot, il y a peu de joueurs, donc il n'y a qu'une catégorie, il n'y a qu'une division, et pour démarrer, il faut avoir 15 ans. Comme il y a beaucoup d'adultes, on estime qu'un joueur peut démarrer à 15 ans parce qu'il est un peu formé physiquement. Donc moi j'ai démarré à l'âge de 15 ans, donc je joue au club de Saint-Mandé. Mon plus beau souvenir avec Saint-Mandé, c'est lorsqu'on a gagné le championnat de France en 2015. Et avec l'équipe de France, donc je joue en équipe de France depuis 2010. Mon plus beau souvenir, ça a été notre médaille aux Jeux Paralympiques. Et également un but que j'ai marqué lors d'un match qu'on a joué contre l'Allemagne. Il restait 3 minutes.
Un vrai beau but qui a
beaucoup circulé sur Internet. Mais au-delà de cette médiatisation, il a permis à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes de découvrir le CC Foot. Là est le plus important.
Moi, c'était pour comprendre, du coup, le rythme des entraînements, c'est combien de fois par semaine?
Alors, il y a à peu près 3-4 séances d'entraînement par semaine. Un peu plus pour les joueurs de l'équipe de France, on est à peu près à 4-5 séances d'entraînement. Et si vous voulez, le CC Foot n'a pas la même logique que le foot à 11. Dans le foot à 11, tout est déjà présent. Au CC Foot, tout est à construire. Les joueurs, les bénévoles, les gardiens, les guides, les coachs. Donc, ça se construit un peu comme le foot féminin. Il y a besoin de personnes qui accompagnent ces joueurs. Et surtout, ce que je veux qu'on retienne de cet entretien, c'est que ça reste d'abord du foot. Oublions le handicap, regardons la performance. Parce que lorsque les joueurs jouent, ils se dépensent. Il y a de la course, il y a du rythme, il y a de l'intensité, il y a du jeu, il y a des passes, il y a des fautes. C'est du foot. Pour les non-voyants, mais c'est d'abord du foot. Et c'est ça qu'on veut faire évoluer comme mentalité globalement dans notre vie. C'est que voyons-nous avec nos compétences et pas au travers du handicap. C'est ça qui est important.
Avec tes coéquipiers, avec les copains dans l'équipe, tu sens qu'il y a de l'enthousiasme quand ils viennent à l'entraînement? Ou alors est-ce que tu as déjà entendu un de tes coéquipiers ne pas vouloir venir à l'entraînement parce que ça le saoulait pour X raisons?
Je suis content de
vous retrouver.
Je te félicite pour la question parce que moi, avant de perdre la vue, j'ai joué au foot en étant voyant. Et je ressens une différence incroyable avec le CC Foot. Je trouve que dans le CC Foot, tout est décuplé, vraiment. Vraiment, il y a beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus de passion. Et on est tous solidaires. Comme on ne se voit pas, il y a beaucoup de communication sur un terrain. Il y a beaucoup de codes entre joueurs. Et si vous ne vous parlez pas sur un terrain, ça peut pas fonctionner. Le jeu, les schémas appris aux entraînements ne peuvent pas se mettre en place en match. Donc, ce que je trouve fort dans le CC Foot, c'est cette cohésion. Et cette cohésion, on l'a fait également lorsqu'on intervient dans les écoles ou dans les entreprises ou associations pour sensibiliser sur le handicap. On met les gens, donc les personnes voyantes en situation de handicap avec le bandeau et ils sont obligés de créer ce lien entre eux, cette cohésion. Et c'est ça qui est beaucoup plus fort. Et en ça, j'estime que le CC Foot devrait être davantage reconnu et valorisé. Parce que on le fait pas pour les paillettes ou pour l'argent, mais ce que j'aime dans le CC Foot, c'est que parmi nous, il y en a qui ont perdu la vue, il y en a qui sont nés et qui n'ont jamais vu, mais il y a toujours ce partage, cette joie de vivre, cet état d'esprit, cette cohésion, ce lien. Et rien que pour ces valeurs transmises dans le CC Foot, ça mérite beaucoup plus d'impact et de soutien, aussi bien des fédérations valide que des gens, globalement. Il faudrait qu'il y ait davantage de gens qui viennent. Je pense que tout le monde devrait découvrir le CC Foot, ne serait-ce que sur Internet, et essayer avec un bandeau. Je pense que ça permet de puiser des ressources et de développer des facultés, de développer les autres sens. L'écoute, le toucher, être dans plus de sensations.
La cohésion aussi, peut-être.
La cohésion. Sans cohésion, il n'y a pas de CC Foot.
Mourad.
Non, j'ai un peu suivi son parcours. Je sais que l'association CC Foot de Saint-Mandé est pionnière dans le domaine.
Tout à fait.
Avec le Sporting aussi.
Alors, effectivement. Alors, juste pour vous expliquer, le CC Foot se développe beaucoup au niveau mondial. Ça se développe beaucoup dans les pays où le football est populaire parce que dans ces pays-là, ils déclinent le foot pour toutes les catégories, notamment pour les non-voyants. Et on retrouve aussi beaucoup le CC Foot dans les pays qui sont à l'aise économiquement. Parce que forcément, plus tu as des finances, plus tu peux venir en aide, plus tu peux soutenir des personnes peut-être qui ont moins d'opportunités au niveau sportif. Et donc le CCFoot est développé au Brésil énormément, en Argentine, en Espagne, en Angleterre. Et en France, ça existe depuis 1987. Et j'ai envie de rendre hommage à Julien Zelella, qui est non-voyant, président du club de Saint-Mandé. Et c'est lui qui a développé le CCFoot en France il y a 34 ans. Et au départ, les gens ne l'ont pas cru. Les gens ont dit, mais attends, tu vas développer cette pratique pour les non-voyants, ça va pas fonctionner, il y aura peut-être beaucoup de contacts, ça va pas être joli à voir. Et non, à ce jour, le CCFoot est gagne en notoriété et surtout, c'est une discipline reconnue mondialement.
Mais en fait, moi, c'était effectivement... Non, merci beaucoup pour cette précision. Et j'avais constaté effectivement que vous étiez pionnier depuis 1987, je pense. Mm-hmm. Mais pour contribuer à l'essor, justement, qui pour moi, le CCFoot, pour moi, c'est du football, hein, tout simplement.
Bien
Est-ce
sûr.
Est-ce que vous bénéficiez éventuellement de l'appui de certains clubs ou de certains joueurs de notoriété publique qui pourraient éventuellement booster la pratique du CCFoot?
Alors, absolument. La réponse va être la suivante. Alors, il faut savoir que le CCFoot n'a pas la même logique que le foot à 11. Dans le sens où les clubs de CCFoot ne vont pas se développer naturellement dans les grandes villes. Les clubs de CCFoot vont naître dans des villes, dans des régions où il y a des centres spécialisés. Forcément, s'il y a des écoles spécialisées pour mal et non-voyants, bah, ces jeunes-là vont vouloir créer leur club. Donc, on retrouve à Paris trois clubs, en région parisienne, trois clubs de CCFoot parce que il y a des centres spécialisés pour déficients visuels. Après, on va retrouver des clubs de CCFoot vraiment dans d'autres villes, pas forcément dans des grosses villes, mais dans des zones où il y a des instituts, des centres pour mal et non-voyants. Ensuite, effectivement, il faudrait qu'il y ait davantage de joueurs de foot professionnels et amateurs et autres, hein, qui s'essayent et qui soutiennent la discipline simplement en parlant autour d'eux et en soutenant un peu la discipline, en relayant les vidéos, les images et en ayant cette curiosité et en impulsant, en demandant aux gens d'aller voir un peu comment ça se déroule. Et effectivement, pour sensibiliser un peu plus les joueurs professionnels notamment, on intervient dans les clubs pour les mettre en situation de handicap visuel pour qu'ils se rendent compte que même eux, joueurs valides, ils auraient tout intérêt ne serait-ce qu'à découvrir et à pratiquer la discipline, ne serait-ce que humainement. Et ensuite, pour voir qu'on développe des facultés.
Vivien.
Alors, en parlant de performance, on a débattu sur Mbappé. Est-ce que toi, tu te vois rester fidèle à Saint-Mandé ou est-ce que tu pourrais être tenté par un nouveau challenge au Sporting Paris, à l'étranger?
Alors, il faut savoir que le Sporting Paris n'existe plus, mais un autre club a vu le jour en région parisienne. Bondy, dans le 93, a créé son club.
On connaît la star du CCFoot Bondy qui s'appelle Viknesh. Je sais pas si
oui, bien sûr, Viknesh est passé par Saint-Mandé.
Viknesh... En fait, il se qualifie comme étant le Kylian Mbappé du CCFoot.
Ah,
il,
ah,
bah, s'il nous raconte des bobards.
En tout cas,
que tu mettais beaucoup de coups à la limite du carton rouge.
Non. On va dire qu'il a mal vu sur ce coup-là.
Il nous a dit que c'était un défenseur rugueux.
Non, après, il est dans le CCFoot et on s'est connu aussi dans l'école pour les non-voyants qui est à Paris. Et effectivement, le CCFoot se développe de plus en plus. Je pense que ça mérite beaucoup de soutien. Vous pouvez me suivre notamment sur mes réseaux. Je mets un peu en place les vidéos pour que les gens suivent un peu plus le CCFoot. Mais ça mérite d'être davantage connu parce qu'il y a vraiment de la performance, vraiment. Il y a du jeu, il y a de l'engagement, il y a de l'intensité. Et ce que j'aime, surtout ce que je trouve génial dedans, c'est qu'on ne se plaint jamais. À aucun moment on se réveille en disant on a un handicap. Non, on est toujours dans cette envie de mettre en place des projets et de montrer la plus belle image qu'on puisse montrer du football.
On salue Viknesh quand même, qui est un de nos très bons consultants, en tout cas, de Télésport sur Beurre FM. Mourad.
Pourquoi pas une journée porte ouverte, justement?
Bien sûr.
Initiation
absolument.
Au CCFoot, qui pour moi...
Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs?
Alors, des initiations, oui. Par exemple, au sein de mon club, donc à Saint-Mandé, donc on organise régulièrement des sensibilisations. Ne pas hésiter à nous contacter via la page Saint-Mandé ou via mes pages personnelles, peu importe. Mais vous pouvez tout à fait venir, tester. Ça peut faire même l'objet d'un reportage, que vous veniez essayer avec le bandeau, dans la bonne humeur, et pratiquer le foot étant en situation de handicap visuel. Mais surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est de porter espoir, vraiment. Je pense notamment à la communauté maghrébine, parce que je suis originaire d'Afrique, et je sais que très souvent en Afrique, les personnes en situation de handicap sont mises de côté. Et s'il y en a qui nous écoutent, gardez espoir, vraiment. Le handicap, c'est pas ce qui vous qualifie, c'est pas ce qui vous met de côté, et vous avez des forces, vous avez des compétences, et ne baissez pas les bras. Ça, c'est ce qui me tient à cœur, vraiment.
Bon, en tout cas, cet espoir, alors déjà, tu le transmets bien. Donc franchement, ben voilà, en toute honnêteté, j'étais pas, je connaissais pas si bien que ça.
On passera à faire un test.
Cette pratique-là, et franchement, merci pour toutes ces informations que tu nous as données. Et puis moi, surtout, c'est pas forcément une question que j'ai à te poser, mais je sais pas vous les gars autour du plateau, mais il y a toujours eu des freins autour du sport quand on était petit. Des fois, il y avait pas de terrain, c'était compliqué d'aller jouer au foot. Je sais pas vous, mais aujourd'hui, vous entendez encore des jeunes, s'il y a des auditeurs, je sais pas, de moins de 18 ans qui nous écoutent et qui disent, j'ai la flemme d'aller au foot aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller à l'entraînement. Là, tu vois, t'as un exemple, ils sont super contents de se retrouver, d'être ensemble, ils te parlent de cohésion. Comment tu veux louper cette cohésion-là quand t'as 15 ans? Comment tu veux louper ça? Et ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont jeunes qui nous écoutent, c'est un kiff d'aller au foot, c'est un kiff de faire du sport, c'est un kiff d'avoir des installations. Profitez-en.
C'est beau, c'est compliqué de rajouter autre chose, c'est clair.
Ouais. Mais pour avancer justement, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour monter encore le niveau du CSIFO? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance de la Fédé Handisport et France Paralympique? Est-ce que
alors
peut-être qu'il faudrait un Hall of Fame du CSIFO?
Alors il faut savoir que le CSIFO, comme beaucoup de sports pour personnes en situation de handicap, est soutenu par la Fédération Handisport, donc on dépend de la Fédération Handisport, mais pas par la Fédération Française de Foot. On est soutenu exclusivement par la Fédération Handisport. Ce qu'il faudrait faire, Claude et les amis autour de la table, il faudrait qu'il y ait davantage de médiatisation, simplement comme aujourd'hui. En parler autour de vous, que les médias en parlent, qu'il y ait davantage de reportages, qu'on regarde ça comme étant quelque chose de qualitatif, comme étant un match classique de football, que les gens en parlent autour de ça, manque de communication, et ensuite qu'il y ait davantage de pratiquants. Sachant que sur un terrain, les quatre joueurs de champ qui ont le bandeau ne peuvent être obligatoirement que mâles ou non-voyants. Quelqu'un qui voit ne peut pas jouer avec nous avec le bandeau. Il ne peut être que gardien. Il faut être ou mâle ou non-voyant pour jouer avec le bandeau.
Donc là, j'en profite pour de lancer un appel à tous ceux, aux joueurs de notoriété publique. On sait que beaucoup de joueurs aiment s'engager, que ce soit auprès des associations ou auprès de certaines causes. Le CSIFOOT, je pense, est une noble cause et aussi un dénominateur commun avec le football. Donc,
ça réunit les gens.
Donc voilà, c'est un appel que je lance à ceux qui nous écoutent.
Alors, pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, on a besoin de gardiens, on a besoin de personnes qui s'impliquent, on a besoin d'arbitres, on a besoin de coachs, on a besoin de guides. Il y a besoin vraiment tout autour des joueurs. C'est si foot, il y a besoin d'accompagnement. Il y en a qui sont prêts à venir, ne serait-ce qu'une fois ou de temps en temps, il y a besoin de bénévoles, des gens qui aident pour contribuer à ce que cette belle discipline, au-delà de Saint-Mandé, cette belle discipline internationale évolue.
Dernière question, parce que là, il lance un appel. Est-ce que vous faites face à de réels manquements à ce niveau, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'accompagnement?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Qui vous empêche de jouer?
Pas qui nous empêche de jouer, parce qu'on trouve toujours des solutions et on estime que notre handicap ne doit pas être un frein à la pratique et au fait de se retrouver pour jouer, pour s'amuser. Et surtout, il y a de la compétition, il y a de l'enjeu, mais il y a besoin même pour acheter des ballons.
Vous voulez évoluer dans des conditions sereines avec,
Bien sûr.
Parce que c'est un club de foot classique.
Absolument. Il faut savoir qu'un ballon de CSIFOOT coûte 40 euros. Je suis pas du tout là pour pleurer, mais c'est une réalité. Il y a besoin pour acheter des équipements, pour acheter des bandeaux, pour acheter des ballons, pour que les joueurs soient équipés comme des joueurs de foot classique, parce que ça reste d'abord et avant tout des athlètes. Donc ceux qui veulent contribuer, comme ils veulent, d'une manière ou d'une autre, la porte est grande ouverte à Saint-Mandé, avec plaisir ou ailleurs, peu importe.
Le message est passé.
Merci Yvan, une page, une page de pub, un peu de musique et on se retrouve
il
juste après.
Il nous dira son futur club après la pub.
Yeah. Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Ça passe vite.
Yo.
Super vite.
De retour sur la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, 19h-20h avec notre invité Yvan Wanji, star française du CSIFOOT, star française du football, on a envie de dire, et c'est vrai. Bien Mourad sûr. Est avec nous, Vivien, Samir, Mourad.
Non, bien sûr, du football tout court.
Bien sûr.
C'est une pratique footballistique à part entière. Non, mais j'essayais justement de... Je lisais entre les lignes tout à l'heure sur le discours d'Yvan.
On revient encore un petit peu avec Yvan avant de passer
à la suite.
Oui.
Quel est le positionnement? Parce qu'on sent qu'il y a une fédération en e-sport, c'est ça spécialisé au football, et je voulais savoir quel est le positionnement de la Fédération Française de Football par rapport à cette pratique.
Alors, justement, il faut bien comprendre le système. En fait, il y a une fédération en e-sport qui gère beaucoup de sports pour personnes en situation de handicap. Donc la difficulté, c'est au niveau des budgets, c'est que la Fédération d'e-sport, elle doit alimenter le CCFoot, mais elle doit alimenter aussi plein d'autres disciplines. Donc, elle peut pas, avec le budget qu'elle a, elle doit le redistribuer un peu à tout le monde. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, forcément, il y a besoin à tous les niveaux de soutien financier plus important.
Ben, honnêtement, si pour moi, ce qui est pas normal, c'est que les fédés doivent prendre en compte tout ce qui est handisport. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est en équipe de France de basket fauteuil. Basket fauteuil, c'est exactement pareil. T'as une fédération comme ça qui est isolée avec le handisport. Et pour moi, c'est encore un scandale qu'en 2021, le CCFoot
une séparation entre les fédérations.
Exactement. Ouais. C'est ça le scandale en France.
Pour moi, c'est une forme de discrimination. Bah, hein, je suis désolé.
C'est bien sûr.
Mais d'autant plus qu'il y a eu une réélection il n'y a pas longtemps. Là.
Excuse-moi, Mourad. Claude, on fait un tollé. C'est pas pour.
Écoute,
on en fait même tout un Claude, je dirais.
On fait tout un tollé autour du football féminin, certes, qui a toute sa place. Bien sûr, il faut se battre pour ça. Mais j'ai l'impression qu'on néglige un peu, justement, cette pratique sportive, qui a aussi toute sa place et qui mérite un traitement égal, que ce soit par rapport au football masculin ou au football féminin. Les loger à la même enseigne, ce serait peut-être intéressant.
Excuse-moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est que on pourrait être aidé, par exemple, par la Fédération française de foot, ou simplement nous permettre de faire des démonstrations à la mi-temps des matchs en Ligue 1 ou des matchs de l'équipe de France. Ne serait-ce que
juste ça. Que les challenges Orange ou Anadou sur les terrains de foot.
Même si elle n'est personne dans les stades.
Ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec ça.
Bien sûr.
On veut du changement.
Absolument. Mais je sens que les mentalités évoluent sur le handicap globalement. Même dehors, dans les transports en commun, les gens ont de meilleurs gestes, les gens viennent plus spontanément nous aider déjà. Ça évolue dans la vie quotidienne. Mais effectivement, des démonstrations, pourquoi pas plus d'échanges avec les joueurs valides, pour qu'il y ait plus d'impact. Je suis désolé. Moi, j'ai atterri dans le CCFoot, mais quand je joue avec les gars, mais c'est magnifique ce qui se passe. Les joueurs en équipe de France, les joueurs en club, mais c'est de la performance. Et je me dis, mais c'est une discipline, c'est pas un sport. Ça fait partie de la famille du foot, comme le foot féminin, comme le foot à 11. C'est une discipline qui mériterait, mais mille fois, d'être valorisée, parce qu'il y a des combattants derrière. C'est des soldats, vraiment.
Et en plus, vous êtes allé en finale du championnat du monde, donc vous êtes vice-champion.
Pas championnat du monde. On a été, médaille d'argent des Jeux paralympiques. C'est important parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts.
Médaille d'argent des Jeux paralympiques.
Et on prépare de Londres en 2012. Et on prépare les Jeux paralympiques au Japon dans quelques mois.
Avec quel objectif? Quelle ambition.
Comme dit le coach, déjà moi j'ai un objectif personnel, c'est de faire partie de la liste finale. Et au-delà de moi, j'espère que l'équipe de France ira le plus loin possible et qu'on fera la meilleure des performances lors des Jeux paralympiques.
Est-ce que vous visez le titre?
Je vais répondre comme le coach dit, aller le plus loin possible.
Dernière question, Samir.
Très humble, Yvan. Match après match. Je suis en train d'écouter un peu tout ce qui est en train de se dire et je suis sûr et certain que les gens vont vraiment adhérer, vont vraiment kiffer, faire des challenges à la mi-temps des matchs et tout, j'en suis sûr. Si jamais il y a, ça revient vraiment aux décideurs, aux grandes instances. En plus, récemment, il y a eu une réélection, donc je ne comprends même pas comment ça a été oublié. Donc si jamais il y en a qui nous écoutent, c'est le moment de faire quelque chose. Et juste une dernière, même pour les autres médias, s'il y a d'autres médias qui écoutent, faut vraiment mettre ça en avant.
Absolument.
C'est très important.
Il n'y a pas question de concurrence, c'est que du bon sens. Et je veux juste remercier ceux qui m'accompagnent globalement au quotidien. Amandine, qui est également dans mon quotidien et qui guide au club de Saint-Mandé.
Que l'on salue.
Bravo Amandine.
Et mon frère jumeau Yvon, qui est de toutes les parties, depuis très longtemps, qui m'accompagne, qui fait beaucoup de choses, notamment sur les réseaux, entre autres. Et remercier tous les joueurs de CCFoot en France, parce que sans eux, sans nous, il n'y a pas de CCFoot. Remercier les bénévoles, les encadrants, et remercier aussi Beurre FM, parce que c'est toujours un temps de parole important, rare, mais c'est important de parler du handicap de manière globale, au-delà du CCFoot, parler du braille, qui est l'écriture pour les non-voyants, c'est important, parce que beaucoup de gens dans leur culture n'ont pas cette connaissance du handicap et comment est-ce qu'on fait globalement au quotidien.
Merci Yvan, de toute façon tu restes avec nous, on passe à la suite.
Time Sport, la victoire.
L'Olympique de Marseille et son mercato, quel est l'avenir justement du club phocéen qui est en lutte pour une qualification européenne mais avec un effectif, on se pose des questions entre les fins de contrat, les prêts avec option d'achat qui seront levés, non levés.
En fait,
déceptions.
Si on veut avoir un lexique du marché des transferts, on n'a qu'à regarder ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille. Mmh. Les arrivées, les départs, les prêts avec option d'achat, les prolongations. Donc on a de tout. Donc je pense qu'on est dans une transition avec Jorge Sampaoli. Je pense qu'il est en train de construire son équipe. Cette saison, je pense qu'on va s'asseoir dessus. Il prépare la saison prochaine. Après, on a on a cet incroyable imbroglio avec avec l'éventuel départ de Milik. Moi personnellement, lorsque je l'ai vu arriver, je savais que c'était éventuellement pour se faire retaper et repartir, puisque c'est un prêt jusqu'en 2022, je pense, jusqu'en juin 2022 avec option d'achat, avec une clause de départ à 12 millions d'euros. Donc, je pense qu'il y a un échange gagnant-gagnant. Milik a signé à l'Olympique de Marseille, non pas pour s'y inscrire sur la durée, mais plus pour un projet personnel. Donc, éventuellement, se remettre sur pattes, marquer quelques buts, performer, aider l'Olympique de Marseille à se qualifier en Ligue des Champions, et ensuite activer une clause. Et j'ai vu qu'il y avait des intérêts du côté de la Juventus de Turin, et pourquoi pas de la Roma. Donc, pour moi, je suis pas surpris. Après, je vois qu'autour de moi, ou même au niveau de certains amis qui me disent, mais Milik, on a l'impression que c'est qu'il a utilisé Marseille comme lièvre pour pouvoir se mettre en avant. Mais c'est tout à fait logique. Et se méfier aussi, ça c'est très important, des clauses dans les contrats qui sont présentes comme des loups dans des contrats administratifs. On l'a vu avec Coutinho, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il a été transféré de Liverpool au FC Barcelone, et que du FC Barcelone il a été prêté au Bayern et qu'il a gagné la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a dû payer cette clause de 5 millions. Donc toujours se méfier des clauses. Et voilà. Mais l'Olympique de Marseille, pour l'instant, on est en pleine transition.
Samir,
tout à l'heure, pour le cas Mbappé, vous parliez d'une série Netflix. Là, j'ai l'impression, pour les passionnés, d'être dans Football Manager. Tu vois, t'as l'impression que tu dois faire tout un effectif. Tu dois composer avec la moitié de l'effectif qui est dans une incertitude. T'essaies de chercher une qualification européenne dans l'incertitude. L'Olympique de Marseille, c'est vraiment cette fin de saison, elle est très compliquée. Donc là, effectivement, comme dit Mourad, on l'a encore vu ce matin, Milik devrait prolonger, mais pour être revendu dans la foulée. Va comprendre. Tout le monde parlait d'une fin de contrat pour Thauvin, et peut-être qu'il aille voir un petit peu son avenir à l'étranger. Peut-être que lui et Amavi vont prolonger. Et entre les fins de contrat et les ventes avec option d'achat, alors il y a Germain, Pelé, Nagatomo, Kawi, Lopez, Cuisance, Encham. Ça fait vraiment beaucoup. Comment tu veux travailler dans la certitude jusqu'à la fin de saison? Puis moi, la grande question que je me pose, et j'en parlais encore même avec mes amis qui sont dans le milieu du football, même si tu n'as pas le budget du Paris Saint-Germain, même si tu n'as pas le budget, ce que tu as utilisé pour recruter les joueurs que tu as actuellement, très sincèrement, même à vous les gars, je la pose la question, tu ne pouvais pas faire mieux avec cet argent?
Bien sûr.
Mais bien sûr que c'est un gâchis, hein. C'est un gâchis monumental avec le club, avec la ferveur de la ville. Moi, je pense que l'effectif, les plaies sont trop grandes. Il faut changer la moitié de l'effectif. Il y a trop de passifs avec le changement de coach. Plus rien ne va. Au moins sauver les meubles et obtenir cette place pour l'Europa League. Voilà. Et puis on repart sur autre chose l'année prochaine.
Je pense que Jorge Sampaoli, c'est son objectif, c'est de sauver les meubles. Mais tout à l'heure, pour rebondir sur ce que dit Samir, pour la gestion d'un club et la gestion saine d'un club, à minima, si on n'a pas les liquidités du Paris Saint-Germain, il faut s'inscrire dans une gestion intelligente. On a un déficit au niveau de la formation. Le centre de formation de l'Olympique de Marseille
est
aux abois. Mais ça se met en place, mais ça fait 10 ans que ça se met en place.
Ça va un peu mieux quand même.
Là, on a des joueurs comme Simacan qui sont issus du cru marseillais, qui ont signé en Bundesliga pour un contrat assez juteux et un coût de transfert assez intéressant. On a le recrutement. Il y a la cellule de scouting de l'Olympique de Marseille, il laisse à désirer.
Elle a explosé. Elle n'existe plus. C'est-à-dire que les recruteurs qu'on avait en début de saison...
Là, ils ont recruté un recruteur qui est intéressant, qui arrive de
3-4 recruteurs.
Qui arrive de Manchester United.
Qui serait renouvelé.
Exactement. Mathieu Sikinger, qui était le head of...
Qui est très connu dans le milieu du recrutement.
Exactement. Qui était head of scouting France pour Manchester United, donc qui arrive du côté de l'OM. On sent que ça bouge. Mais on a l'impression d'avoir ce même discours tous les ans, en fait. Il y a par-ci, par-là, quelques petits mouvements, quelques signes, on va dire, positifs qui nous font croire qu'il y a du mouvement, mais ça avance pas, clairement.
Les montagnes russes du côté de Marseille.
C'est ça, mais c'est pour ça que faut voir ce que Sampaoli va faire, et ça... Mais après, pour rebondir, tout à l'heure, Mourad disait qu'il fallait laisser passer cette saison. Moi, je pense que quand même si l'OM ne veut plus atteindre le podium, il faudrait quand même avoir un minimum en termes de place.
Tu sais pourquoi? Parce que...
Si
on est dans une transition avec cette saison, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des acquis de cette saison-là. Alors que cette saison-là est totalement un fiasco.
Oui, mais
je pense qu'on a plus intérêt à repartir de zéro.
Oui.
D'accord? Oui. Quitte à reculer pour mieux sauter. Parce qu'il y a un changement à tous les niveaux qui doit être fait du côté de l'OM.
Non, mais en termes de résultats, tu peux quand même viser la 5e place. Et c'est d'accrocher cette fameuse 5e place qui peut-être serait qualificatif pour l'Europa League.
Et qui permet d'avoir une rentrée financière non négligeable aussi.
Exactement.
Si Milik est d'accord pour marquer quelques buts et éventuellement qualifier l'Olympique de Marseille avec des champions, pourquoi pas?
Enfin, la Ligue Europa, Europa.
La Ligue Europa, oui.
Enfin, moi, j'ai dit que l'OM doit finir cinquième.
Je pense que c'est dans leur corde.
Parce que le podium, non, mathématiquement, il commence à être un peu loin.
Je pense que c'est dans leur corde, le Stade Rennais.
Oui, mais on a
le Racing Club de Lens.
Metz aussi, bien sûr. Il ne faut pas oublier Metz d'Antonetti.
Et on a ces petits clubs un peu outsiders, comme le Racing Club de Lens, comme le FC Metz, qui était dans les années 90. De véritables leaders et là qui reviennent, ça fait plaisir. D'autres clubs ont besoin d'exister.
Je suis encore étonné qu'on n'ait pas recruté un Kenny là. On laisse partir à l'Olympiakos, qu'on prend pas un Farid Boulaya qui est originaire de Vitrolles juste à côté. Je ne comprends pas ce que ce club fait, mais bon.
Mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, on enchaîne avec un mot de basket. Une victoire de LeBron James contre Brooklyn en finale ferait-il de lui le meilleur joueur de l'histoire du basket? Vivien, au hasard.
Bah, la question pourrait se poser, mais alors déjà, il faudrait qu'il y ait une finale LA-Brooklyn, ce qui pour moi n'est pas encore fait. Alors, pour expliquer aux auditeurs, voilà, Brooklyn a fait encore un recrutement assez monstrueux en prenant deux anciens All-Stars qui sont Blake Griffin et LaMarcus Aldridge. Donc Brooklyn arrive en favori actuellement. Puis les Lakers, ils ont beaucoup de blessures. Donc LeBron James lui-même est blessé encore pendant quelques semaines. Anthony Davis, le deuxième meilleur joueur, il en a encore pour quelques semaines. Donc les Lakers dégringolent au classement. Donc si malgré tout ça, les Lakers arrivent à se remettre et à gagner, là, ce serait exceptionnel. Et le débat avec Michael Jordan, qui pour moi est le principal adversaire de LeBron, mais il y a peut-être Kareem Abdul-Jabbar encore en discussion, serait forcément relancé, ouais. Mais on en est encore très loin de tout ça pour moi.
Alors moi, j'ai une petite question. C'est sur Twitter, on a vu que Fournier, pourquoi il a mis des smileys, en fait, mort de rire sur le transfert de. Le récent transfert.
De Griffin au Nets?
Oui.
Parce que alors bah c'est Evan hein, il aime beaucoup.
La question, je suis pas spécialiste.
Non mais c'est non aucun problème. Alors Evan sur Twitter il aime beaucoup commenter l'actu et titiller et du coup ça l'a fait sourire parce que déjà lui il joue à Boston. En fait lui il a été passé d'Orlando à Boston et il sait qu'il va devoir passer par ce mastodonte potentiellement dans un premier ou deuxième tour de playoff. Donc il sait que ça va être très difficile pour lui de s'en sortir, surtout que là il arrive à Boston et ça se passe pas très bien pour l'instant. Son premier match il a été un zéro pointé et on espère pour lui que ça ira mieux.
Yvan, vous suivez un petit peu le basket?
Le basket français, oui, beaucoup, Nanterre notamment, mais basket américain, non, sincèrement non.
Et ben on a un spécialiste ici, c'est Vivien Guibanga.
Ok.
C'est dommage, il faudrait, non mais c'est spectaculaire et c'est un autre style. Et puis un autre basket à suivre, c'est le basket fauteuil, ça on en parle très peu, c'est très spectaculaire.
Ouais, c'est très spectaculaire, absolument. Ouais. Il y a un beau championnat de France dont on parle peu aussi.
C'est ça, et on a
justement, on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes besoins que pour le cécifoot ou d'autres sports.
Eux, c'est encore plus compliqué parce que dans le basket fauteuil, il faut savoir qu'il y a deux choses. Pour une personne en fauteuil roulant, il y a le fauteuil pour la vie quotidienne, et il y a le fauteuil pour la pratique sportive.
Exactement.
Et un fauteuil pour la pratique sportive, c'est hyper cher. C'est 3000 euros. Alors, il faut savoir que quand on s'inscrit dans un club de basket, en basket fauteuil, la ville offre un fauteuil roulant, mais pour les autres joueurs, comment tu fais quand t'as 4-5 joueurs en fauteuil roulant et qui veulent s'équiper forcément d'un basket, d'un fauteuil spécifique sport, il y a beaucoup de clubs qui n'y arrivent pas et qui mettent la clé sous la porte. Donc c'est une difficulté aussi, hein. Le financement dans le handisport de manière globale, ça reste le nerf de la guerre.
Exactement. Puis sur l'NBA, il faudra voir du coup ce que ça a donné parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Des équipes qui sont renforcées, les champions en titre aussi, les Lakers ont pris André Drummond à l'intérieur pour les aider un petit peu. Donc, une ligue qui va être assez passionnante. On est à peu près à moitié, vers les deux tiers en ce moment. Donc, il y aura beaucoup de choses d'ici juillet. Et ça, honnêtement, les Nets sont favoris et ce sera encore un challenge incroyable pour LeBron James.
Brooklyn, vrai prétendant ou simplement mouvement de star?
Aujourd'hui, il ressemble un peu quand même à une équipe de mercenaires qui sont tous rassemblés pour gagner un titre NBA. Le problème, c'est qu'on se dit, mais quand ils seront tous ensemble, comment ils vont pouvoir jouer? Qui va avoir la balle? Qui va être le meilleur scoreur?
Moi, j'ai l'impression que tous les moyens sont mis en, en place pour empêcher, pour bloquer Harden en fait. J'ai l'impression que c'est une meute de hyènes contre.
C'est ce qui est bizarre. Et
moi qui suis le basket de très très loin.
Bah, et l'autre aspect, c'est que donc le jeune coach Steve Nash, on se demande comment il va pouvoir gérer ça. Donc c'est vraiment l'inquiétude. On se dit que
c'est
voilà.
LeBron James, pardon, je dis Harden, la preuve que je me trompe.
Oui. c'est le lapsus intéressant parce que c'est peut-être qu'en interne, c'est pas si rose, même si il se balade un petit peu en ce moment. Donc. Ben forcément les superstars. Alors on parle souvent de LeBron, mais même un Steph Curry, beaucoup de gens sont contents de voir Steph Curry Golden State un peu dans le trou, alors que pendant des années on avait une rivalité LeBron James versus Steph Curry. Donc les gens veulent bloquer ces deux stars et ils sont prêts à tout pour se renforcer.
Après Harden, il s'est autoproclamé MVP, là il a pas le choix de gagner. Hein.
Ah non, là il a pas le choix, c'est le titre, sinon c'est un échec. Là il y aura pas de plan B pour les Nets.
Allez, pour clôturer cette émission, pronostic pour le match entre le Paris Saint-Germain qui reçoit le LOSC, c'est demain à 17h au Parc des Princes, choc de la Ligue 1.
Est-ce que pronostic, je te dis juste le score ou je te donne une analyse tactique qui pourrait aboutir sur le score?
Ton pronostic.
Ah, je plaisante. je vais te dire 3-0 pour le Paris Saint-Germain.
3-0 s'envolera vers le titre pour Mourad, on peut le voir comme ça. Vivien.
Ben, je vais aussi dire 3-0 moi.
3-0, ouais, score net et sans bavure aussi, tranquille. Ouais. Samir ?
Je pense que ça va être un peu plus compliqué qu'on coupe, notamment avec les absents. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, mais avec un but de différence. Donc moi, je dis 1-0 ou 2-1 pour le Paris Saint-Germain.
1-0 ou 2-1, ils vont pour clôturer.
Je pense qu'à quelques jours du match contre le Bayern, ils vont faire tourner peut-être 2-0.
Pour 2-0 Paris. Pour le Paris Saint-Germain. Merci Yvan, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir pour cette dernière émission de la semaine. Et voilà, on vous souhaite le meilleur pour le Cécifoot. Un dernier mot peut-être ?
Ouais, simplement un dernier mot pour remercier tous ceux qui étaient là aujourd'hui, tous les auditeurs, tous ceux qui m'ont posé les questions, Claude et tous les consultants. Remercier aussi Myriam Bensala parce qu'elle m'avait sollicité au départ il y a quelques mois pour que j'intervienne. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je le remercie infiniment et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, non pas pour moi mais pour en savoir
merci,
un peu plus
Yvan.
Sur le Cécifoot.
Merci à tous. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.